Bonsoir à toutes et à tous, une émission avec des lumières, des sapins, des étoiles d'or et d'argent, des gâteaux qui sortent du four, des volailles qui y entrent, des odeurs appétissantes, vin chaud sucré, bûche de Noël, pour un joli réveillon. À quelques jours de Noël, Wagon Livre reçoit Lucette Dévy. Bonsoir Lucette Dévy.
Bonsoir Yannick.
Merci à vous d'être devant les micros et... Je suis très heureux, bien évidemment, de vous recevoir dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, parce qu'à quelques jours de Noël, ça va être l'occasion de remettre en pleine lumière scintillante un recueil de contes que vous avez fait paraître il y a 10 ans exactement, et qui a pour titre, un titre original et surprenant, Lucette Dévy, Le Père Noël est un chien.
C'est ça, oui.
Alors, peut-être conviendrait-il, avant de débuter notre échange, de vous présenter un peu aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors, vous êtes dévoré par le démon de l'écriture depuis votre plus tendre enfance. Vous êtes agrégé d'anglais. Vous avez un doctorat ès-lettres. Vous avez même rédigé 2 thèses, dont une sur Marivaux. Vous avez été enseignante. Vous enseignez la littérature comparée pendant un quart de siècle. Et vous êtes aussi énormément spécialisé dans l'histoire du théâtre que vous avez enseigné aux universités de Lyon et de Saint-Étienne. Alors, vous avez un très grand nombre de livres à votre actif, notamment des sagas, ou vous préférez peut-être le terme de suite... Non, saga, ça vous convient ?
Une saga, c'est très bien. Une saga, c'est quand même une histoire romanesque, un cycle romanesque qui présente les heures et malheurs d'une famille... sur plusieurs générations. C'est ça la définition d'une saga.
Alors, il y a Les Mains Nues, qui est une suite romanesque et qui est constituée d'une trilogie.
Hein, voilà.
Donc, Les Nœuds d'Argile, qui a reçu le prix Roland d'Orgelès en 1982. Mmh. Donc, c'est aux éditions Mazarine. Mmh. Ensuite, Le Grain du Chanvre ou l'Histoire de Jeanne. Et puis, le livre de Juste. Autre saga... Alors là, vous êtes extrêmement féconde, hein, Lucette Dévy. Vous ne vous arrêtez jamais. Les Mains Libres, là, c'est chez François Bourin. Donc, il y a un tome qui a pour titre « Vent debout » et un autre tome qui s'intitule « La brise en poupe ».
C'est ça. Et j'ai voulu, avec ce livre-là, rompre un petit peu le thème essentiel de la première saga. Les Mains Nues, vous voyez, ça veut dire... que mes héros étaient toujours désarmés en face du destin, en face de la santé, en face de la misère, en face de la maladie, etc., etc. Et j'avais l'impression que parce que ils étaient restés en Bourgogne, la trilogie bourguignonne en effet se déroule entre Cluny, Mâcon, et Tournus. Mes ancêtres, puisque c'est leur histoire que je raconte, si mes ancêtres n'ont pas connu le bonheur auquel ils avaient le droit et qu'ils méritaient d'avoir, c'est peut-être parce qu'ils avaient voulu simplement rester sur leur territoire. Ils n'étaient pas sortis de cette Bourgogne où le sort les avait fait naître et où ils avaient décidé de rester. Et au contraire, la deuxième saga, c'est celle non plus de mes ancêtres à moi, mais c'est celle des ancêtres de mon mari, qui eux, des luxembourgeois du milieu du 19e siècle, plongés dans la plus grande misère, dans l'absence totale d'espoir de pouvoir vivre tranquillement avec leur famille, ont décidé un beau jour de partir pour les Amériques. Et il y a justement dans cette nouvelle saga qui s'appelle cette fois-ci Les Mains Libres, un autre esprit, parce que quitter son pays au milieu du 19e siècle, n'est-ce pas, en 1830, c'était quand même quelque chose de rudement culotté, et il fallait affronter les périls et la mort pendant la traversée de l'Atlantique, par exemple, dans des conditions absolument désastreuses. Eh bien, je voulais montrer qu'une fois arrivé aux Amériques, une fois implanté là-bas, les ancêtres de mon mari avaient pu vivre comme ils le voulaient, élever leur famille, aimer librement, et c'était une chose qui me paraissait très très intéressante à opposer, à confronter à la philosophie, en somme, des Manus, qui, elle, était toujours désenchantée, toujours beaucoup plus tragique.
Alors, je dois à Lucette Desvignes préciser, je l'ai oublié, vous êtes née à côté de Chalon-sur-Saône.
C'est ça, je suis née à Mercurel, oui. C'est-à-dire le cru le plus sensationnel de toute la côte chalonnaise.
Et j'ai oublié de mentionner que vous êtes une conscrite de Jean d'Ormesson.
Une
conscrite? Vous avez le même âge que Jean d'Ormesson.
Voilà, exactement. Exactement. Je crois qu'il a un an de plus que moi. Enfin, mais oui.
Alors, vous avez été invité par Bernard Pivot à l'époque où le journaliste animait l'émission Apostrophe. Vous avez été invité alors pour parler d'un de vos romans qui a connu grand succès. C'est Clair de nuit qui a paru chez Fayard.
Voilà. Clair de nuit a paru chez Fayard. Alors ça n'était pas du tout en rapport avec les deux sagas dont je vous ai donné les grandes lignes il y a un instant. C'était quelque chose, au contraire, qui voulait s'inscrire en faux contre les nœuds d'argile. Les nœuds d'argile, c'était l'histoire de mes ancêtres, d'après une mince trame familiale que j'avais voulu reconstituer. Et je disposais donc d'un certain nombre de personnages, d'une époque, d'un milieu modeste, d'artisans assez pauvres. Et tout cela m'avait été, en quelque sorte, livré par la tradition. Je n'avais pas de manuscrits de famille, mais j'avais encore quelques souvenirs du quotidien que ma mère m'avait, avant de mourir, livré. Comment on allait chercher l'eau à la pompe, ce que ressemblait le petit poil triangulaire qui ressemblait à un crapaud, avec un énorme tuyau pour chauffer la maison, n'est-ce pas, pour chauffer la cuisine. J'avais donc insisté sur ce caractère un petit peu prosaïque, naturaliste, du cadre et des personnages, et je voulais voir si on pouvait écrire un roman intéressant avec des données tout à fait différentes. Donc je suis partie pour Clair de nuit d'un homme qui avait devant lui 48 heures à vivre, qui était immobilisé dans son lit, qui avait devant lui aussi un papier de tapisserie très énervant, avec des harpes, des nœuds, des petits pois, du mauve, du rose, du jaune, des petits boutons de rose, etc. Et je voulais savoir si, avec les souvenirs d'enfance de cet homme, on pouvait faire un livre. Et j'en ai fait un roman, et un roman qui a eu beaucoup de succès, mais en le construisant comme une pièce de théâtre, en 5 actes. Et à la fin de chaque acte, il y a un élément qui ressort et qui redéclenche l'action de l'acte suivant. Ça, c'était une chose qu'il fallait que je trouve, parce que je m'étais très vite rendu compte qu'avec les souvenirs d'enfance, si intéressants qu'ils puissent être, on n'avançait pas. On n'avait pas de force dramatique pour construire la structure d'un roman. Donc, il fallait autre chose. Donc, j'ai trouvé autre chose.
Alors, Lucette Desvignes, on va marquer une première pause musicale. Nous allons écouter une chanson de Noël et on se retrouve d'ici quelques minutes, si vous le voulez bien.
En clignant un œil de travers et cheminant toutes par bandes, Les étoiles au ciel d'hiver se racontent bien des légendes et se moquent de l'univers. Je les aperçois de ma chambre où j'ai voulu rester ce soir en pensant que viendrait me voir le Noël de la fin décembre. Le petit Noël d'autrefois n'est pas descendu chez moi. Pourquoi ? La nuit s'est terminée et soudain j'ai froid, tout seul devant ma cheminée. Je fermais les yeux en rêvant qu'il était là comme avant souvent. Je croyais l'entendre chanter d'une voix tendre, mais ce n'était sur le toit que le vent. Dans les bals, on s'amuse et on rit. C'est Noël sur Paris. Noël sur les faubourgs, Noël sur les grandes routes. Partout ce n'est plus qu'un même cri, un cri que je redoute. Car je comprends bien qu'aujourd'hui, tous ces deux-là sont finis, mais oui. Le petit Noël, le Noël d'autrefois, ne redescendra plus jamais chez moi. En dépit des nouveaux plaisirs, malgré les grandes aventures, notre cœur voudrait refleurir au milieu des choses futures, en trouvant des souvenirs. Il voudrait croire aux vieux mystères, à l'éclat d'un monde irréel, à tous les sabots de Noël qui font des heureux sur la terre. Le petit Noël d'autrefois n'est pas descendu chez moi. Pourquoi ? La nuit s'est terminée et soudain j'ai froid, tout seul devant ma cheminée. Je fermais les yeux en rêvant qu'il était là comme avant souvent. Je croyais entendre chanter d'une voix tendre, mais ce n'était sur le toit que le vent. Dans les bals, on s'amuse et on rit. C'est Noël sur Paris. Noël sur les faubourgs, Noël sur les grandes routes. Partout ce n'est plus qu'un même cri, un cri que je redoute. Car je comprends bien qu'aujourd'hui, tous ces jeux-là sont finis, mais oui. Le petit Noël, le Noël d'autrefois, ne redescendra plus jamais chez moi.
Toujours dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion avec notre invité ce soir, Lucette Devigne. Alors l'émission a commencé, j'allais dire, sur les chapeaux de roue, où là, effectivement, les auditrices et auditeurs ont pu constater que l'œuvre de Lucette Devigne était multiple et riche. Alors on va pas pouvoir sans doute ce soir présenter tous vos écrits, Lucette Devigne, mais j'aimerais, avant que nous abordions les contes de Noël qui attirent notre attention ce soir, j'aimerais évidemment signaler et informer les auditeurs que une partie non négligeable de vos travaux, de votre œuvre littéraire, est publiée aux États-Unis. Et ça, Lucette Devigne, l'agrégée d'anglais que vous êtes, bien sûr, ne peut que s'en réjouir. Vous en êtes fière et il n'y a pas à en rougir. Lucette Devigne est lue aux États-Unis.
Bien sûr, oui. Et c'est même très amusant parce que ça fait des années que ça dure et qu'on ne le sait pas en France. Je suis toujours très contente d'avoir des occasions comme ça de le mentionner et je suppose que ça doit beaucoup surprendre les gens de découvrir qu'aux États-Unis, on a joué mon théâtre après l'avoir traduit, on l'a édité.
Parce que votre théâtre n'est pas traduit en France. Enfin, n'est pas traduit, n'est pas publié en France.
N'est pas publié en France. Alors, si on veut lire mon théâtre, il faut soit le lire en anglais, dans une édition américaine, soit le lire, toujours dans une édition américaine, mais en bilingue, avec le texte français quand même respecté, et puis en face, la traduction d'anglais. Mais c'est amusant quand même, n'est-ce pas, de penser. Et mes poèmes, c'est la même chose. J'ai un gros livre de poèmes qui est publié aux États-Unis dans un très beau livre bilingue. Alors il y a les poèmes en français à gauche, je crois, et puis à droite il y a leur traduction en anglais ligne à ligne. Et ça, c'est quelque chose d'assez amusant, parce que si on veut lire mes poèmes, sauf ceux que j'ai publiés à La Renarde Rouge, bien sûr, ceux du journal indien qui sont publiés aux éditions d'Armançon. Mais à part ça, mes poèmes, il faut les lire dans une édition américaine, ce qui paraît invraisemblable, mais c'est quand même comme ça que ça se passe.
Alors, tout aussi invraisemblable, c'est qu'aux États-Unis, un auteur, un écrivain s'est penché sur votre vie, puisqu'il existe une biographie de Lucette Desvignes.
Voilà, il existe une biographie de Lucette Desvignes. Vous pouvez signaler d'ailleurs qu'elle est parue aux éditions de l'Armançon aussi, à partir peut-être du Miel de l'Aube, c'est-à-dire de ce récit des 18 premières années de ma vie, dont les 5 dernières, c'est-à-dire toute l'adolescence, se sont passées pendant la guerre et surtout les 4 dernières pendant l'occupation. J'avais 18 ans à la Libération et ce sont ces 18 premières années que je raconte dans le Miel de l'Aube. Or, avec le Miel de l'Aube, on avait quelque chose de tout à fait différent puisque c'était mes souvenirs d'enfance, d'adolescence et avec comme arrière-plan la guerre, l'occupation et puis ce jeu insistant que j'avais voulu choisir. Je voulais, avant de mourir, et vous voyez que ça remonte déjà à quelques années, je voulais absolument consigner mes souvenirs en noir sur blanc, parce que ils avaient, mes souvenirs d'enfance, toujours nourri mes autres livres. Tous mes romans sont nourris par mes souvenirs d'enfance, même si ça n'est pas patent à première vue. Mais je voulais vraiment me consacrer à mes souvenirs d'enfance avec le jeu insistant qui correspondait à la vérité et l'absence totale de romanesque. C'était mes souvenirs. J'ai une très bonne mémoire, donc je m'en suis servie, mais c'était essentiellement ce qu'on peut trouver dans le Miel de l'Aube. Et justement, le docteur Curtis, qui a fait la biographie parue à l'Armançon, s'est inspiré d'abord du Miel de l'Aube pour montrer que tout ce que j'ai fait, en quelque sorte, en littérature, c'est le reflet de ma vie, d'éléments de ma vie qui ont existé, que lui-même a connu, etc. Et c'est pour ça que cette biographie est intéressante, parce que elle, évidemment, elle ne narre pas les circonstances de ma mort. Ça, c'est pas encore fait, hein. Mais elle raconte beaucoup de choses de ma vie, même après les 18 premières années du Miel de l'Aube.
Alors, le Miel de l'Aube, donc votre autobiographie parue en 1999 aux éditions de l'Armançon. On mentionnera aussi un recueil de nouvelles, Affaires de famille, Les Contes du Vignoble.
Ah oui, Les Contes du Vignoble qui ont connu deux éditions à 10 ans d'intervalle. Ils ont été repris et ils ont eu en général beaucoup de succès. Ce sont des histoires très pleines de soleil, mais des histoires vraies, des petites histoires drôles qui sont arrivés à des vignerons, à des gens ne vivant que pour la vigne et le vin, que j'ai connu entre Mercuret, Aluz, Givry, Fontaine, c'est-à-dire vraiment la côte chalonnaise. Et c'est en hommage à cette côte chalonnaise que j'ai écrit ces Contes du Vignoble.
Alors, vous écrivez aussi des poèmes. Il y a Voyage en Botuli, paru toujours aux éditions de l'Armançon en 2008.
C'est un peu à part, ça, oui.
Et puis, on aura l'occasion de vous réentendre dans Wagon Livre au début de l'année 2011, Lucette Desvignes. On en parlera plus longuement. Votre dernier beau gros roman, qui est aussi une saga, hein, la vie d'une manante sous l'Ancien Régime, qui s'étale de 1709 l'année de sa naissance jusqu'à sa disparition au tout début, les prémices de la Révolution française, enfin peu de temps après la fameuse nuit du 4 août.
Et sur trois générations, toujours le même système, il n'y a pas trois livres, c'est un seul gros livre, il n'y a pas trois livres comme dans la saga bourguignonne, mais c'est quand même l'histoire d'une famille sur trois générations.
Alors j'aimerais qu'on revienne un peu à vous. J'aimerais que dans vos souvenirs d'enfance, Lucette Desvignes, puisque ce soir c'est une émission consacrée à Noël, et donc je rappelle à votre recueil de contes de Noël qui a pour titre « Le Père Noël est un chien » disponible aux éditions de l'Armançon, Lucette Desvignes, est-ce que vous pourriez nous parler d'un de vos Noëls de petite fille ? Un souvenir de Noël marquant dans cette famille entre des parents instituteurs ?
Eh bien, je dois dire que Noël n'était pas une fête très drôle chez nous. Je pense que c'était dû à l'austérité de ma mère. Et Noël passait un peu inaperçu. Bon, on avait peut-être un gros rôti, on avait quand même de la bûche ce jour-là. Mais je vois que pour mon frère et pour moi, il n'y avait pas de sapin, on ne mettait pas les souliers pour avoir quelque chose. Je sais aussi, et c'était un symbole de la dureté des temps, que jusqu'à la guerre, pour le premier de l'an, mon frère et moi, nous avions chacun une orange, n'est-ce pas ? Ce sont des choses qu'on a du mal à imaginer maintenant, et j'ai pas encore 100 ans, mais on a du mal à imaginer que Noël puisse avoir été quelque chose de si peu de retentissement autrefois, alors que maintenant c'est vraiment le grand débordement de la fête de famille, on invite les amis, etc. On pense des mois à l'avance à ce qu'on va... à ce qu'on va manger, à ce qu'on va acheter, aux cadeaux qu'on va faire, au décor de la maison. Tout ça, c'était une chose que je ne connaissais pas du tout.
Alors évidemment, en lisant vos contes de Noël, Lucette Desvignes, j'apprends que le soir, la veille de Noël, il faut regarder les animaux et il faut les écouter parce qu'ils nous parlent. Alors, 12 contes de Noël comme les 12 coups de minuit, des contes qui nous ramènent à des réalités parfois tristes, avec toujours un dénouement heureux parce que ce sont des contes de Noël, mais il y a toujours un Noël d'ombre et il y a toujours un Noël radieux grâce au dénouement que vous nous offrez. Alors, expliquez peut-être aux auditrices et auditeurs de Radio-N pour quelles raisons et dans quel contexte et pour qui ces contes ont été successivement rédigés, puisque c'est une compilation de contes.
Oui. Eh bien, c'est très facile à dire. Depuis 25 ans et plus, je crois, je collabore à une revue de la Confédération des SPA de France, dont le siège est à Lyon. Et pour cette... SPA, enfin pour ces SPA, puisqu'elles sont regroupées, il y en a 250, 260 je crois ensemble, pour ces SPA, j'avais promis un petit conte, et je ne pensais pas que je durerais si longtemps et qu'il y aurait autant de contes à mon actif. Mais quand il y en a eu 12 de publiés, on a dit pourquoi ne pas en faire un recueil et le mettre dans le commerce. Ces contes étaient très précisément destiné à la revue lyonnaise de Lyon et du Sud-Est, de la Confédération des protections animales, qui s'appelle La protection des animaux. Et j'avais commencé avec des petites études, enfin je vais glisser parce que sans ça nous n'aborderions jamais le problème de Noël, des petites études sur les bêtes et tout naturellement l'idée m'est venue d'offrir à cette revue un conte de Noël tous les ans. C'est pour ça que tous les 4 numéros de la revue, il y a un conte de Noël et le Père Noël est un chien n'était pas le premier, mais il apparaissait comme si frappant avec son titre que on l'avait mis un peu en exergue, tout en pensant, c'était l'éditeur qui rechignait un petit peu, que le Père Noël est une ordure, allait lui faire de l'ombre. Finalement, je ne crois pas. Je ne crois pas.
D'éteindre la lumière, bébé succombe à son sommeil, mais les joujoux très en colère, dans leur placard tiennent conseil. Les joujoux font grève, ils en ont assez, d'être tracassés et fracassés. Le ballon qu'on crève, la poupée combat, sont lassés des jeux et des combats. Le pompier n'a plus d'échelle, le tambour est plein de trous. Le cheval n'a plus de selle et l'auto n'a plus de roues. Mais il se soulève contre cet enfant, il va voir comment on se défend. Le placard entre-ouvre sa porte, ça grince un peu. Ma foi, tant pis. Et voilà que les joujoux sortent, sautant sans bruit sur le tapis. Les joujoux discutent pour savoir comment ils vont préparer leurs armements. Pour mener la lutte, un chef est nommé, c'est un vieil indien tout déplumé. Le pompier fourbit sa lance, le tambour bat le rappel, le cheval déjà s'élance, le moment est solennel. Quittant leur cahute, ils forment les rangs, le mot d'ordre étant mort au tyran. Le chef a dit marchons en ordre vers celui qui nous démolit. Pour le griffer et pour le mordre, nous grimperons au drap du lit. Mais l'enfant sommeille tendre et gracieux comme un chérubin tombé des cieux. Devant ces merveilles, les joujoux surpris se sont arrêtés tout attendris. Le pompier dit tout de même, un bébé c'est bien gentil. Le tambour dit moi je l'aime. Alors ils sont repartis. Quand l'enfant s'éveille vers 8h15, les joujoux sont tous dans leur placard.
Toujours dans Wagon Livre avec Lucette Desvignes. Alors, le Père Noël est un chien, mais dans la crèche, il n'y a ni chien ni chat. Et je me suis dit, Lucette Desvignes avait peut-être envie de réparer un oubli, parce que sont souvent mis en avant le petit âne à l'œil doux et le bœuf qui réchauffe l'enfant Jésus dans la crèche, enfin dans les scènes de nativité traditionnelles. Il n'y a ni chat ni chien. Et vous, ce sont essentiellement ces deux animaux de compagnie que nous aimons tant, qui hantent et peuplent ces contes pour notre plus grande joie.
Eh bien, écoutez, je n'ai pas fait ça exprès, disons, mais il est de fait que j'ai toujours été entourée de chats. En ce moment, j'en ai une douzaine, je vis avec une douzaine de chats en symbiose, n'est-ce pas? Et puis, je pense que jusqu'au bout, il faudra que j'ai des chats autour de moi. J'ai déjà prévu leur destin après moi, c'est déjà tout arrangé, comme mes obsèques sont déjà payées, mais alors mes obsèques, ça ne concernerait que moi, tandis que c'est beaucoup plus grave en ce qui concerne les chats. Donc j'ai toujours eu des chats autour de moi, j'ai toujours adoré les chats, toutes les bêtes. Je n'écrase pas les fourmis, les araignées, les guêpes, je prends les guêpes et les abeilles à la main. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je vis dans une espèce de continuum où les insectes, les bêtes ont leur place aussi. Il y a quelque chose enfin, c'est comme une parenté entre eux et moi. Mais je ne veux pas étendre là-dessus parce qu'en plus de ça, ça pourrait être grotesque. Il y a des gens qui se mettraient à hausser les épaules. Mais ce que je veux dire, c'est que vivre avec des bêtes comme des chats, développer leur intelligence, répondre à leurs besoins de tendresse, c'est quelque chose de parfaitement enrichissant. Et de les voir vivre autour de moi, de les voir se développer, s'entraimer, s'entre-détester, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Je dois dire que, par exemple, il y a quelques années, j'ai eu une tribu de chats, parce qu'évidemment, avec les années, les morts, les chats n'ont... Enfin, ma ribambelle de chats n'a pas toujours la même allure, mais il y a une quinzaine d'années, quand j'allais écrire, j'avais des chats qui sentaient que j'allais écrire. Alors, ils me précédaient dans mon bureau, ils s'installaient en couronne autour de moi. Et je n'avais plus qu'à me mettre, je n'avais plus qu'à m'asseoir au milieu d'eux. Et ils se couchaient tous pendant que j'écrivais. Et au bout d'un moment, quand ils en avaient assez, ils savaient que quand je mettais les lunettes, c'était pour écrire. Alors le chef, à ce moment-là, c'était mon Miaouchka, un chat d'une intelligence exceptionnelle, venait devant moi et avec un ongle, il me retirait mes lunettes. Il le faisait 3 ou 4 fois de suite, d'un air de dire « Enlève tes lunettes, reviens sur terre, reviens avec nous, tu as assez écrit aujourd'hui. »
Est-ce que, comme la petite Manette, la fillette d'un des contes, est-ce que vous parlez la langue des chats ?
Oh, mais bien sûr ! Oh, mais bien sûr ! Je pourrais même dire que je parle le patois de chaque chat. Parce que chaque chat a une langue articulée. Par exemple, vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, mais quand mon Django vient de dehors, quand il rentre, il vient me faire ses civilités et il me raconte des choses, il me raconte ce qu'il a fait dans le jardin. Et moi, je le comprends.
Vous écrivez, « Écoutez, la nuit de Noël est toute proche, les bêtes vont parler. » Il n'est que de bien tendre vers elle les oreilles de son cœur. Dans ces contes, il est beaucoup question de la chaleur du cœur. Vous voulez mettre en avant, finalement, ce qui est important aussi au moment de Noël, c'est le partage, la solidarité, l'entraide, notamment pour les plus démunis, parce qu'il y a des situations humaines extrêmement douloureuses dans ces contes de Noël. Et les animaux vous semblent apporter une réponse parfois presque thérapeutique pour des personnes isolées qui sont dans le veuvage, dans la solitude, l'isolement.
Exactement. Je crois que la compagnie d'un chat, d'un chien aussi, mais pourquoi pas chien-chat, c'est encore mieux, la compagnie de ces bêtes si douées d'affection, douées de tendresse, c'est quelque chose de si réconfortant que cela peut aider dans la solitude à passer par exemple une soirée de Noël où on se croirait un peu abandonné. Si on a un chat ou un chien près de soi, on n'est pas abandonné. On a une affection, une tendresse qui peut être plus ou moins fruste, plus ou moins raffinée, mais qui sera toujours présente. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus important que beaucoup de gens ne le devinent pas. Et en écrivant ces contes de Noël, il m'a bien fallu remplacer le merveilleux traditionnel, auquel nous ne croyons plus, n'est-ce pas ? La baguette magique, les transformations, la citrouille, nous n'y croyons plus. Mais nous pouvons admettre que des situations tragiques ou tristes s'illumine, se réchauffe, parce que il y a des animaux qui sont venus nous apporter leur part de confiance, de tendresse, Je crois que ça, c'est très, très important. Et j'avais déjà eu l'occasion de faire des conférences sur le merveilleux des contes. Et ce merveilleux-là, il existe. Il existe sous la forme de... vous parliez tout à l'heure de partage, mais c'est vrai. Le partage, l'amitié, la chaleur,
l'échange,
la compréhension, l'échange, tout cela, ce sont des choses qui font partie du merveilleux. Elles n'existent pas d'emblée, il faut les susciter, il faut les faire naître, et à ce moment-là, elles peuvent rentrer directement dans la catégorie du merveilleux. Elles illuminent la fin d'un conte de Noël quand toute la famille se retrouve, quand Semoule et Tapioca ont retrouvé leur maison, quand la journaliste qui détestait les animaux a changé de lunettes et se met à les aimer, quand le chat qui cherchait ses maîtres a retrouvé son vieux pépé et ses enfants. Voilà, c'est un merveilleux en ce sens que il est peut-être exemplaire par rapport à ce qui se passe dans notre vie, mais il existe si on y met du cœur, si on y fait intervenir sa propre tendresse, sa sollicitude pour les autres.
Voici ce que le petit Noël
apporte en cadeau du ciel.
Un mouton qui fait bébé, 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 bébé.
Un anneau qui fait tiron, tiron, tiron.
Voilà ce que le petit Noël m'apporte en cadeau du ciel. Un chien, chien qui fait ouah, 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 ouah.
Une vache qui fait mou, 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 mou.
Voilà ce que le petit Noël m'apporte en cadeau du ciel. Un beau tambour qui fait brrr.
Un canard qui fait coin, 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 coin.
Voilà ce que le petit Noël m'apporte en cadeau du ciel. Une poule qui fait cote, 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 cote.
Un coq qui fait coquerico.
Voilà ce que le petit Noël m'apporte en cadeau du ciel.
Un jupon qui fait flic-floc, flic-floc, flic-floc.
Un violon qui fait zing-zing.
Voilà ce que le petit Noël m'apporte en cadeau du ciel.
Une clochette qui fait ding-ding, ding-ding, ding-ding.
Une trompette qui fait ta-ta.
Voilà ce que le petit Noël m'apporte en cadeau du ciel. Un oiseau qui fait coucou, coucou, coucou.
Un fusil qui fait coucou, coucou.
Voilà ce que le petit Noël m'apporte en cadeau du ciel.
Toujours avec Lucette Desvignes, notre invitée ce soir dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, dans laquelle nous évoquons Le Père Noël est un chien, recueil de contes de Noël, signé de notre invitée aux éditions de l'Armançon. Alors, Lucette Desvignes, dans ces contes de Noël, vous avez précédemment, avant l'intermède musical, évoqué l'importance de la chaleur du cœur. Vous avez rappelé finalement les fonctions du merveilleux et vous en avez délimité les contours et les exigences. Les enfants sont présents dans ces contes. Leur regard sur les animaux semble être assez proche du vôtre. Je pense notamment à ce conte où une petite sœur et son frère sont conduits au cirque et ils ont la désagréable sensation de voir des animaux sauvages qu'on imagine dans la savane ou dans les steppes emprisonnés derrière des barreaux. Alors, Évidemment, vous avez dans ces contes un regard assez lucide et sévère sur une humanité pleine de férocité, pleine de violence, une humanité aussi qui souffre. Je pense à ce forain, j'aime particulièrement ce conte de Noël.
J'aime beaucoup aussi, moi.
Je vais situer rapidement pour les auditeurs. Donc, c'est l'histoire d'un forain qui possède un manège de chevaux de bois, enfin de différents animaux en plâtre. Et le soir de Noël, il décide quand même d'allumer son manège, attendant un peu désespérément quelques clients. Et puis, cette magie de Noël, ce merveilleux de Noël intervient. Cet homme est veuf, donc il a une souffrance. C'est un homme qui est seul, brisé par le deuil, par la disparition de son épouse. Et donc, son mal-être, il le passe en donnant des coups de pied à son chien, qui semble pourtant être une bête fidèle, puisque le chien ne se sauve pas. Et cet homme va accompagner par les animaux de son manège qui vont s'animer, qui vont le suivre. Il est accueilli dans une famille modeste, dans une maison modeste où tout est à reconstruire. J'ai présenté assez sobrement le conte. Et là, finalement, cet homme va, avec ses animaux, il va contribuer à faire renaître, parce qu'on est dans la naissance avec Noël, la nativité, il va faire renaître le bonheur, la joie de vivre dans une famille qui est finalement pour lui une famille d'adoption.
Exactement, oui. Oui, oui. Je crois que vous avez très très bien résumé le conte. C'est aussi un conte que j'aime beaucoup, parce que d'une part, on y voit aussi assez développé ce thème de la parole qui est donnée aux animaux dans le courant de la nuit. Dans la nuit de Noël, les animaux, dit-on, ont le droit de parler. Et les animaux de ce manège, qui sont en carton-pâte, en bois, etc., mais qui sont quand même des animaux, ont contact avec ce propriétaire du manège, cet homme seul. Et il ne s'était jamais imaginé que des animaux puissent lui apporter autant de réconfort. Et à partir du lendemain, ce sera une vie nouvelle qui va s'ouvrir pour lui, pour les animaux, pour le chien, pour les gens de la maison qui l'ont adopté, cette auberge abandonnée au bord de la route. Et je crois que c'est ça la morale de cette histoire, ce cheminement de la solitude et du désespoir vers les autres et la chaleur du foyer, puisque là il y a quand même une bûche dans l'âtre.
Les animaux peuvent parler et parfois ils peuvent être musiciens. C'est absolument incroyable. Dans le conte intitulé Un Noël en musique, il y a chat noir, chat gris, chat noir et blanc, il y a chartreux, Médor et Mirza et Ingénu, et ils joueront au clair de la lune, tout en ignorant que les cordes du violon sont en boyaux de chat.
Voilà,
d'ailleurs.
Ils ne savent pas ça, alors c'est pour ça qu'ils jouent de tout leur cœur, mais pour le violoncelle, on est obligé de demander à quelqu'un d'autre de rendre le service, de passer l'archet sur les cordes.
Alors concernant les humains, alors vous avez un regard extrêmement sévère à l'égard des chasseurs. Alors les chasseurs, c'est pas votre cible privilégiée, mais vous écrivez, je vous cite, « Quand les chasseurs rentrent bredouille, gare au minet, gare au toutou. Que voulez-vous ? Il faut bien passer sa déconvenue sur quelqu'un. » Et puis, dans un autre conte, vous écrivez, « Et je ne vous parle même pas des chasseurs, toujours ravis de pouvoir tirer un chat comme un lapin dans le jardin d'une vieille voisine, surtout s'ils n'ont pas réussi à tuer un lapin pendant leur promenade digestive. » Vous n'aimez pas les chasseurs ?
Pas du tout.
Bon, moi, vous êtes franche.
Non. Comme je n'aime pas non plus les chasses à cours, comme je n'aime pas ce qui se passe dans les arènes, les courses de taureaux.
Ah, vous n'aimez
pas. Non. Je suis végétarienne, moi.
Vous ?
Alors, c'est par devoir moral. C'est pas du tout parce que je n'aimais pas la viande. J'y pense encore souvent. Et quand j'ai des amis, par exemple, bien, je ne veux pas leur imposer mon régime. Donc, je mange de la viande avec eux pour les mettre à l'aise. Mais je suis végétarienne. J'ai réussi à être végétarienne depuis 3 ans. Et je m'y cramponne. Et croyez-moi, c'est dur. C'est dur. Il y a des choses auxquelles je pense que je ne mangerai plus jamais, comme du foie gras, du foie de veau. Bon, ça, j'aime autant ne pas y penser. Mais c'est vraiment une volonté de ma part de ne pas contribuer à la mort des bêtes. Je fais partie, par exemple, de l'association de l'aide aux bêtes d'abattoir pour s'assurer qu'avant d'être abattues, les bêtes ont été insensibilisées. Vous voyez, ce sont des choses qui sont très, très ancrées dans ma philosophie.
Alors essayons de garder un propos joyeux et de ne pas aborder, parce que c'est vrai que la fête est un temps, c'est un moment où on met un peu de côté les choses graves, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans vos contes de Noël, parce que vous n'éloignez pas les réalités, la gravité, la solitude,
oui,
les souffrances.
Ça, oui.
Par exemple, vous n'aimez pas la guerre. Vous écrivez « Quand vous avez vu de près la guerre ou la misère, vous n'attendez plus grand-chose des humains, puisqu'il y a ce fameux chat qui revient de guerre. » Et alors, ce qui est amusant, c'est la complicité que vous réussissez à obtenir avec vos lecteurs en le faisant un peu patienter, en montrant que c'est bien vous qui guidez l'histoire, que c'est vous qui... que nous sommes à votre merci, notamment. Mais oui, c'est bien un conte de Noël, un peu de patience. Les chiens et les chats vont arriver tout de suite. Donc, on voit bien que vous voulez signaler que vous êtes la maîtresse du jeu narratif.
C'est moi qui commande, je suis au volant et silence sur les coussins.
Regardez-moi ça, cette espèce de bande de fourneaux. Ça vous bouscule, ça vous demanderait seulement pas pardon. Pardon, Fauchemann, purée. Ce soir, pardi, c'est le réveillon. On voit passer que des rigoleurs. Je gueulerai au feu ou au voleur, personne n'y fera attention. Ah, tenez yeux, tenez, c'est la Saint Poivron. Ah, tout chahute, tout flambe, tout reluit. Les restaurants, les bistrots, ils ont la permission de la nuit. Tout chacun pense qu'il y a croustillé. Il y a plein de monde dans les rôtisseries, les épicemars, les charcuteries. Est-ce que ça sent bon le boudin grillé? Jésus est né. Dans les temps quand il s'est amené, il gelait comme il gèle cette nuit. De la paille de votre écurie, vous avez rien dû avoir friot, Jésus et vous, Vierge Marie. Je suis là, Sainte Vierge, à mon coin de rue, où depuis l'apéro, je bats la semelle. Je suis qu'une ordure, une fille perdue. C'est la Charlotte qu'on m'appelle. N'est-ce pas, vous n'êtes pas fâchée qu'une fille d'amour, pleine de péché, vous cause ce soir à sa manière pour vous expliquer ses misères. N'est-ce pas, vous n'êtes pas fâché? Allez, bing, là, on me bouscule avec des litres, des pannes 4 litres, des assiettes 8. Mais regardez-moi cette espèce de chameau! Oh, pardon, excuse, Vierge Marie, mais que j'ai cordé ma vie d'amour. C'est vrai que j'ai quitté de chez nous, mais c'était que la dèche et les coups. C'était un vrai enfer, Sainte Vierge. Et sois-y, sans être une effrontée, vous-même, y seriez pas resté. Eh ben, c'est pas des boniments, c'est vrai, je vous le jure, Vierge Marie. Malgré comme ça que j'ai fait la vie, j'ai pensé à vous bien souvent. Je revois votre belle robe bleue, votre voile, même qu'il était piqué d'étoiles, votre belle couronne d'or sur la tête, votre petit trésor sur les bras. Eh bien, si vous vouliez, Sainte Vierge, faire ce soir quelque chose pour moi, pour le temps que j'étais pas une impie, vous n'avez qu'à lever le petit doigt et pas vous occuper du reste. Oh, je vous demande pas des choses pas honnêtes. Faites seulement que je trouve et ramasse un porte-monnaie avec galette, perdu par un de ces mufs qui passe. À moi plutôt qu'au balayeur. Ou alors, si vous voulez pas, vous pouvez pas, Vierge Marie, vous allez me trouver bien hardi. Alors faites-moi tout de suite sauter le pas et puis emmenez-moi avec vous. Prenez-moi dans le paradis où ce qui fait chaud, où ce qui fait doux, où plus jamais je ferai la vie. Oh oui, emmenez-moi, dites, emmenez-moi avant que la nuit soit passée, que je sois encore ramassée. Emmenez-moi, dites, je vous en prie. J'en peux plus de grelotter. Allumez mes malversés, mes désouliers de couvert. J'ai toujours mon costume d'été que j'ai fait teindre en noir pour l'hiver. Oh oui, oh oui, emmenez-moi, dites, emmenez-moi. Et comme il doit y avoir du chemin, si des fois vous vous sentiez là, Vierge Marie pleine de grâce, de porter à bras notre Seigneur, un enfant c'est lourd à la fin, vous me le repasserez un moment, et puis moi je le porterai à mon tour, sans laisser tomber par terre, comme je faisais chez mes parents, la petite maman dans les faubourgs, quand je trimballais mes petits frères. Vierge Marie pleine de grâce, vous qui êtes bénie entre toutes les femmes, priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs.
Nous arrivons presque au terme de cette émission avec Lucette Desvignes pour Le Père Noël est un chien, recueil de contes de Noël aux éditions de l'Armançon. Lucette Desvignes, il me reste à vous remercier et je dirais et je ne peux qu'encourager nos auditeurs à se procurer ce recueil de contes de Noël auprès des bonnes librairies. Et vous êtes en fait comme un des personnages du conte. Vous voulez, à travers ces textes, ces 12 textes, qui rappelle les 12 coups de minuit, vous voulez qu'il y ait partout, la nuit de Noël, du contentement, de l'amitié et de la tendresse. Trois mots-clés, contentement, amitié et tendresse, Lucette Desvignes.
Oui, ce sont vraiment des mots qui me tiennent beaucoup à cœur. Et je pense qu'on les trouve ici, dans mes contes de Noël. Mais je crois qu'on pourrait les retrouver un peu partout, dans chacune de mes nouvelles. Que ce soit les nouvelles très graves de famille, ou d'autres nouvelles un peu plus souriantes dans affaires de famille. Je crois que partout, il y a ce même culte de la chaleur, de la compréhension de l'autre, du désir d'aller vers l'autre.
L'acceptation de l'autre, la reconnaissance de l'autre avec cette différence. La reconnaissance de l'autre,
oui, exactement. La reconnaissance de l'autre, le respect de l'autre. Le respect de l'autre, comme quand je respecte une abeille, une guêpe, une fourmi, une araignée. C'est ce respect de ce qu'il représente, de ce qu'elle représente. Et ça, c'est, je crois que c'est une disposition que chacun de nous devrait bien essayer d'adopter.
À quelques jours de Noël.
À quelques jours de Noël, oui, mais je veux dire, même après Noël.
Bien sûr.
Une disposition qui devrait être permanente. Je crois que les choses iraient beaucoup mieux dans le monde.
Donc rappelons-nous que ces animaux sont des offrandes, des présents que nous avons au quotidien à nos côtés pour notre plus grand bonheur et notre plus grand réconfort.
Oui.
Car c'est aussi l'hymne à l'animal et au respect de l'animal, bien évidemment.
Oui, mais attention, ne pensez pas qu'il soit nécessaire d'offrir un chien ou un chat pour Noël à quelqu'un. Ça, c'est une erreur, ce serait une erreur. Il faut donner un chat ou un chien à quelqu'un qui est vraiment responsable et qui sait qu'il va, en ayant la tendresse de sa bête, aussi à assumer quantité de devoirs. Des devoirs, des frais, tout un tas de choses. Donner un petit animal à quelqu'un pour Noël, ça ne me paraît pas un bon choix.
Sur ces sages recommandations, Lucette Devine, permettez-moi de vous remercier. Je rappelle dès à présent aux auditeurs de Wagon Livre que nous nous retrouverons au début de l'année 2011 pour une émission au cours de laquelle nous parlerons de l'histoire de Colombe, votre dernier roman, l'histoire d'une manante sous l'Ancien Régime, histoire de d'une survivante du terrible hiver 1709. Et je n'en dis pas plus, ce sera dans le courant du mois de janvier ou février 2011 avec Lucette Devine sur Radion. Et pour l'heure, bien sûr, je recommande à tout un chacun de lire, de savourer, de réfléchir aussi à ces contes de Noël, puis de se laisser bercer par le merveilleux « Le Père Noël est un chien », conte de Noël de Lucette Devine. Lucette, je vous souhaite un bon Noël et je vous embrasserai tout à l'heure. Après avoir salué les auditeurs, je vous laisse un petit mot si vous le désirez.
Un petit mot, c'est simplement pour vous dire que j'ai été très heureuse par votre intermédiaire d'entrer en contact avec les auditeurs. Je leur souhaite à tous aussi un heureux Noël avec l'ouverture sur les autres, puisque c'est le mot-clé un peu de notre émission. Et vous, Yannick, je vous remercie particulièrement. C'est très gentil à vous d'avoir pensé à me présenter. Et cette insistance sur tout ce qu'on a publié de moi aux États-Unis m'a beaucoup réjoui aussi, parce que c'est en général quelque chose que tout le monde ignore. Merci beaucoup Yannick et bon Noël à vous.
Bon Noël à vous Lucette Devine. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, mercredi prochain à 21h. Ce sera la dernière émission de l'année et nous accueillerons Jean-Charles Couny, paysan, écrivain morvandiau qui évoquera Claire de Lune à Walpé, l'histoire d'un petit village perdu en Sud-Morvan où la zizanie va s'installer suite à la décision du maire d'accueillir un centre de traitement des déchets radioactifs. À mercredi prochain. Au revoir Lucette Devine, au revoir à toutes et à tous et merci.
Yannick. I'm not afraid of the dark.
Noël.